Donc, je vais commencer aujourd'hui un cycle sur la physique des supraconducteurs à haute température critique, les oxydes de cuivre supraconducteurs à haute température critique. Alors, en fait, je voudrais tout de suite vous dire que ce sera, d'une certaine manière, à peine un cours, puisque c'est un sujet qui est encore un sujet extraordinairement controversé, et que donc faire véritablement un cours avec des savoirs établis sur ce sujet, c'est un peu une gageure. Donc c'est en partie pour ça que j'ai conçu l'enseignement de cette année comme une série relativement concentrée de séances qui durent toute une après-midi, avec cours et en général deux séminaires. Aujourd'hui est un peu exceptionnel parce qu'il y aura 2 heures de cours et un séminaire, parce que pour pouvoir démarrer, il faut quand même introduire un certain nombre de notions de base et 1 heure n'aurait pas suffi. Donc le format, ce sera en général un cours, 2 séminaires, j'espère suivi d'une séance d'une 20aine de minutes où on pourra discuter d'un certain nombre de questions ouvertes dans le domaine aujourd'hui. J'en profite pour faire une petite remarque concernant la langue du cours. J'ai bien conscience qu'il y a dans l'audience un certain nombre d'auditeurs et auditrices, en particulier les plus jeunes, qui ne maîtrisent pas bien le français. La tradition veut que les cours au Collège de France se déroulent en français, donc je m'en excuse pour eux, mais pour cette raison, les transparences sont rédigées en anglais. Alors, toute cette histoire, évidemment, commence en 1986 par une découverte absolument spectaculaire, et je vais passer quelques minutes à vous expliquer à quel point elle a pu être vue comme une découverte effectivement spectaculaire, qui est la découverte par Bednortz et Müller, que vous voyez ici, de la supraconductivité dans certains oxydes de cuivre, en l'occurrence lanthane, barium, cuivre, oxygène, à une température dépassant les 30 degrés Kelvin. Cette découverte leur a valu le prix Nobel dès l'année suivante et a ouvert une sorte de boîte de Pandore qui est d'une part la compréhension et l'étude expérimentale de ces systèmes, l'élaboration de nouveaux matériaux, ce qui s'est produit, comme vous allez le voir, extrêmement vite après cette découverte, leur étude expérimentale et la mise en évidence d'un certain nombre de questions fondamentales soulevées par ces matériaux, dont un bon nombre reste ouverte encore aujourd'hui. Donc, on peut dire que ce domaine des cuprates supraconducteurs, si on le replace en particulier dans le cadre plus large des matériaux à forte corrélation électronique, dont les cuprates ne sont qu'un sous-ensemble, a déclenché un effort de recherche extraordinaire. Et cet effort de recherche couvre de nombreux champs. Il couvre des champs qui sont des champs liés à l'élaboration de matériaux nouveaux, des champs liés à l'exploration de ces matériaux par des techniques expérimentales, et puis des champs, disons, théoriques. Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que l'étude de ces cuprates a constitué un extraordinaire élan pour le développement, pour pousser un certain nombre de techniques expérimentales, on peut dire toutes les techniques expérimentales de la physique des solides, avec même le développement de méthodes d'instrumentation ou de méthodes expérimentales qui étaient encore relativement dans l'enfance au moment de cette découverte, comme par exemple la photoémission résolue en angle, dont j'ai déjà parlé dans le cours de l'année dernière. Et j'en profite pour signaler au passage, parce que c'est quelque chose qui me fait très plaisir, que le prix Buckley de l'APS pour 2011 a été décerné ou va être décerné à Campuzano, Peter Johnson et Ziyech Chen, qui ont été des pionniers de l'utilisation de cette technique, du développement de cette technique pour l'étude des cuprates supraconducteurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel il est difficile de faire un cours, et je voudrais vous donner un petit peu quelques éléments pour justifier cette difficulté. D'abord, la littérature est absolument immense. On estime qu'il y a, enfin, on sait qu'il y a plus de 100 000 articles qui ont été publiés en 25 ans sur ce sujet. Je ne connais pas le nombre exact, il est peut-être proche de deux fois ce nombre, je ne sais pas exactement, mais la littérature est considérable et vous imaginez bien que même un professeur au Collège de France très dévoué ne va pas lire 100 000 articles pour préparer son cours. Donc, il est complètement impossible d'être exhaustif sur ce sujet. La deuxième difficulté, et ça c'est vraiment une difficulté, je dirais, essentielle de ce domaine, c'est que ces cuprates supraconducteurs présentent une très large diversité de phénomènes qui eux-mêmes s'incarnent dans une assez grande diversité de matériaux. Et même si ces matériaux, comme vous allez le voir dans le premier cours d'aujourd'hui, ont un certain nombre de grandes caractéristiques communes. Et alors ça soulève un problème, c'est qu'il est toujours difficile de savoir ce qui, parmi ces phénomènes, est essentiel pour expliquer les mécanismes à l'œuvre dans ces systèmes, et en tout premier lieu l'origine de la supraconductivité, par rapport à des phénomènes qui sont observés, qui peuvent même être observés dans plusieurs de ces matériaux et qui peuvent être considérés à juste titre comme des phénomènes relativement périphériques. Voilà. Donc, cette grande diversité introduit une certaine confusion dans le domaine. Il y a des places devant, n'hésitez pas à les prendre. Une certaine confusion dans le domaine qui est l'origine de beaucoup de discussions dans les conférences sur ce sujet. Et elle rend aussi un cours difficile puisque forcément on ne va pas pouvoir tout couvrir. Et qui plus est, comme je le disais, c'est un sujet qui est loin d'être consensuel. Et le mécanisme même qui est à l'origine de la supraconductivité de ces systèmes n'est pas quelque chose qui est l'objet d'un consensus aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est encore un sujet en pleine action, très vivant, et donc le fait d'y faire un cours est une chose assez complexe. Donc j'ai fait un certain nombre de choix qui valent ce qu'ils valent, mais disons que c'est les choix que j'ai faits pour préparer ces cours. D'abord, j'ai décidé de mettre le projecteur seulement sur un certain nombre de questions, même si le cours d'aujourd'hui est un cours relativement introductif qui va, on va dire, présenter le terrain de jeu des chercheurs sur ce sujet. Il est évident que je ne traiterai pas tout, donc cette sélection reflète à la fois une ignorance personnelle et aussi des goûts personnels. D'autre part, je vais quand même essayer de m'attacher à présenter dans les cours principalement les faits qui sont relativement bien établis. Donc c'est un cours où il y aura finalement relativement peu de physique théorique pure et dure, mais pas mal de phénoménologie, puisque en six cours, présenter la phénoménologie de ces systèmes, c'est déjà un peu un défi. J'essaierai en faisant ça de souligner un certain nombre de questions clés qui me semblent être des questions importantes pour la compréhension de ce sujet, dont certaines sont encore très ouvertes. J'essaierai de mentionner un certain nombre de réponses possibles, mais seulement comme des réponses possibles. Et puis alors j'ai aussi choisi une stratégie très maligne qui est de laisser énormément de travail à mes collègues expérimentateurs qui vont faire les séminaires et que je remercie très vivement d'avoir accepté de présenter en fait des pans entiers de ce domaine à travers les séminaires. Donc c'est pour ça que j'ai conçu ça comme des séances cuprates qui durent toute une après-midi. Vous verrez que séminaires et cours vont être très complémentaires dans ce cycle de cours. Alors du point de vue un peu plus scientifique, j'ai aussi choisi, on peut dire que finalement, ça, c'est un peu une chose dont je me suis aperçu après avoir préparé les premiers cours. On peut dire que l'approche que je vais suivre, c'est une approche qui part finalement des hautes énergies pour descendre vers les basses énergies. Alors ça, c'est un diagramme de phase que je présente ici sans l'expliquer, mais que vous allez revoir tout à l'heure, dans la deuxième heure de ce cours. Donc c'est un diagramme de phase qui représente les grands régimes de ces matériaux, je reviendrai plus en détail tout à l'heure, en fonction de la température et de la densité de porteur. Et tout ce que je voudrais que vous voyez sur ce diagramme de phase actuellement, c'est une illustration de ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire de partir des températures ou des énergies relativement hautes, dans lesquelles les instabilités les phases avec ordre à longue portée sont encore assez loin, et d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on descend en énergie. Il y a des quantités de questions qui deviennent assez épineuses sur la physique de très basse énergie de ces systèmes, et en particulier toutes les instabilités, les phases en compétition à basse température, et quand on voit les choses en partant des énergies hautes, on arrive à se focaliser sur des problèmes qui sont peut-être un peu plus universels à travers les différents matériaux de cette grande famille, puisque la physique de haute et moyenne énergie dans ces systèmes est très universelle, et la physique de très basse énergie, et en particulier la compétition entre les différents ordres à longue portée qui peuvent intervenir, dépend beaucoup plus du matériau qu'on regarde. Alors on peut adopter une attitude un petit peu similaire en essayant d'approcher le système à travers les dopages élevés. Voilà, donc voilà un petit peu le menu de ce qui vous attend dans les 5 séances qui viennent. Aujourd'hui, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, je vais faire 2 cours d'environ 55 minutes ou 1h10. Ceux qui sont venus l'année dernière savent que j'ai un peu tendance à dépasser mon temps. Le but de ces 2 cours, c'est d'une part d'introduire les matériaux et les grandes idées de base sur leur structure électronique et les modèles qu'on peut utiliser pour décrire ces systèmes. Alors ça pourrait être déjà en soi l'objet de 3 heures de cours. C'est un sujet qui est très touffu, sur lequel il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de donner un certain nombre d'éléments essentiels. Et puis dans une deuxième heure, je vais décrire d'une manière assez grossière les grands régimes du diagramme de phase, donc ce que vous venez de voir rapidement dans le transparent précédent. Et ceci est destiné à pouvoir préparer le terrain au premier séminaire. Ce serait difficile de faire un séminaire sans avoir ces grands éléments. Et je remercie Henri Alloul, qui est ici, de nous présenter un panorama, d'une part, de la RMN dans les cuprates, qui est une technique expérimentale qui a beaucoup apporté et qui, en particulier, a été la technique par laquelle la découverte de ce phénomène qu'on appelle le pseudo-gap, dont je parlerai tout à l'heure et dont Henri parlera. C'est à travers la RMN que ce phénomène a été découvert, et Henri a été un des pionniers de cette découverte. C'est l'objet du séminaire d'aujourd'hui, mais il y aura aussi dans ces séminaires, bien sûr, des choses qui sont en prise avec des développements récents de la recherche dans ce domaine. Dans la séance prochaine, je vais continuer un petit peu mon exploration de la phénoménologie de ces matériaux. Donc, en particulier, je parlerai de ce qu'on appelle la dichotomie entre région nodale et antinodale de l'espace réciproque. Et on aura 2 séminaires, l'un fait par Kamran Benya, qui nous parlera de thermotransport, de transport d'entropie et d'effet Nernst dans les cuprates, et l'autre par Christophe Berthaud de l'Université de Genève, qui nous fera une revue de la spectroscopie par microscopie à effet tunnel dans ces systèmes. Ensuite, on aura une séance où je pense que je vous parlerai peut-être plutôt de théorie dite RVB, et on aura 2 séminaires très liés entre eux qui seront entièrement consacrés à la diffusion de neutrons et à l'exploration de ces matériaux par diffusion de neutrons, donc par Philippe Bourges, que je vois ici dans la salle, et Yvan Sidis. Le 30 novembre, j'attaquerai finalement la phase supraconductrice, où je vous donnerai les grands éléments de sa physique, tout au moins en ce qui concerne la phénoménologie. Et on aura 2 séminaires, l'un par Alain Sacuto qui nous parlera de diffusion Raman et en particulier de l'exploration de la phase supra par diffusion Raman, et l'autre par Jérôme Le Sueur qui présentera une très jolie expérience qui a été faite à l'ESPCI il y a quelques années, qui est une mesure directe des fluctuations supra dans la phase pseudo-gap des cuprates. En fait, ce séminaire aurait été mieux placé quelque part ici, mais évidemment, les impératifs de calendrier de chacun ont rendu ça difficile. La semaine du 7 décembre, il n'y a pas de séance. La raison de ça, c'est qu'il y a une rencontre du GDR matériaux fortement corrélé, qui est un réseau de recherche sur ce sujet, cette semaine-là, et donc j'ai préféré supprimer la séance. Le 14 décembre, ce sera la dernière séance. J'avais invité Nigel Hussey à nous parler de transport. Là encore, c'est un séminaire qui aurait été mieux au début. Mais malheureusement, Nigel, pour des raisons personnelles assez impératives, a dû annuler sa visite. Donc, il y aura un autre orateur ou une autre oratrice, je ne sais pas encore qui. Et puis, Cyril Proust viendra nous parler d'oscillation quantique, qui est une des expériences les plus spectaculaires, intéressantes et récentes dans le domaine des cuprates ces dernières années. Donc, voilà un petit peu le menu. Et je vais maintenant commencer à entrer dans le vif du sujet. Sauf si vous avez des questions particulières sur l'organisation de ce cours. Bien. Alors, donc entrons un peu dans le vif du sujet. Je voudrais d'abord vous donner une petite perspective historique en quelques transparents sur la recherche de nouveaux supraconducteurs. Donc là encore, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un cours entier, mais ça sera juste quelques transparents. Alors, comme vous le savez, 2011 marque le 100e anniversaire de la découverte de la supraconductivité. Il y aura d'ailleurs toutes sortes d'événements publics et scientifiques qui vont célébrer et commémorer cette découverte. La supraconductivité a été découverte par M. Heike Kamerling-Onnes en 1911, donc, à Leiden. Et Kamerling-Onnes était à la recherche de moyens d'atteindre des très basses températures. Il a été le premier à arriver à liquéfier l'hélium. Et vous avez ici, la photo n'est pas excellente à l'écran, vous avez ici Kamerling-Onnes trônant devant son appareil de liquéfaction d'hélium, le premier liquéfacteur d'hélium à Leiden. Cet appareil est d'ailleurs toujours visible à Leiden, si vous allez à l'Institut Lorentz. Et donc, ce qu'avait découvert Kamerling-Onnes, c'est que la résistivité du mercure chutait brutalement à zéro à une température de l'ordre de 4 degrés Kelvin, 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Et assez rapidement, on a découvert que ce phénomène se produisait également dans d'autres métaux simples, comme ceux qui sont indiqués ici. Donc, 1911, découverte de la supraconductivité, mais comme c'est également bien connu, c'est un phénomène qui a dû attendre de très nombreuses années pour recevoir une explication microscopique complète et cohérente, même s'il faut quand même signaler qu'entre 1911 et 1957, date de la théorie BCS, les physiciens ne sont pas restés inactifs et il y a quand même eu un certain nombre de grandes étapes importantes qui ont guidé vers cette théorie BCS, en particulier les approches, disons, de type macroscopique, en particulier les équations de London et toute cette physique plus macroscopique de la supraconductivité, et d'autre part, évidemment, la prise de conscience que l'interaction électron-phonon était importante, en particulier à travers les travaux de Frölich. Mais enfin, c'est en 1957 que la théorie BCS émerge réellement, et cette théorie BCS est une théorie de l'appariement des électrons selon l'idée de Cooper, en paires par l'interaction électron-phonon, et elle conduit à une formule pour la température critique qui, dans sa version la plus simple, est écrite ici. Et vous voyez que dans cette formule, il y a trois éléments. D'une part, un préfacteur, qui est la fréquence de Debye des phonons. Donc, puisque c'est l'interaction électron-phonon qui apparie les électrons, il est assez normal que la fréquence caractéristique de cette interaction intervienne. Donc, vous avez ici la fréquence de Debye des phonons participant à l'appariement. D'autre part, une dépendance exponentielle qui est responsable du fait que les températures critiques sont malheureusement relativement faibles, devant, ou même très faibles, devant l'énergie de Fermi en général. C'est ce facteur exponentiel qui en est responsable. Et vous voyez que dans ce facteur exponentiel, il y a une constante de couplage sans dimension, ici V, N de EF, mais cette constante de couplage sans dimension est le produit de deux quantités importantes. L'une qui est une force caractéristique de l'interaction électron-phonon, c'est en fait une formule un peu naïve, il faudrait introduire un pseudo-potentiel de Coulomb, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans et ce n'est pas essentiel pour la suite. Et d'autre part, une densité d'état des électrons au niveau de Fermi, V à la dimension d'une énergie, N de EF de l'inverse d'une énergie, cette quantité est bien une constante de couplage sans dimension. Alors je crois qu'il est assez juste de dire que la recherche de nouveaux supraconducteurs partant du mercure à 4 Kelvin, évidemment du supraconducteur ayant des températures critiques plus hautes, a été quand même fortement guidée par cette formule-ci. Et vous voyez qu'on peut faire trois choses essentiellement si on se laisse guider par cette théorie BCS. on peut chercher à augmenter la fréquence de Debye. Et comme la fréquence de Debye est inversement proportionnelle à la masse des atomes qui vibrent, des ions qui vibrent, il est assez naturel d'aller chercher des matériaux qui sont fabriqués avec des éléments légers. Alors, le record de ça, c'est MgB2, qui contient du bore, donc un élément relativement léger, et dont, d'une manière tout à fait ironique, la supraconductivité n'a été découverte que récemment, il y a moins de 10 ans. Et donc ça, c'est quand même une chose tout à fait étonnante. La supraconductivité de MgB2 aurait dû non seulement être découverte plus tôt, mais en plus prédite. Ce n'est pas une gloire de la physique théorique de ne pas avoir prédit que MgB2 avait une température critique si élevée, d'autant plus qu'MgB2 pourrait bien être un supraconducteur d'intérêt pratique. Donc, augmenter la fréquence de Debye en allant vers des matériaux légers, voilà une piste possible. Augmenter le couplage électron-phonon. Et assez logiquement, on va avoir tendance à chercher des matériaux où on est relativement près d'une transition structurale, puisque si on a une transition structurale, ça veut dire que l'interaction électron-phonon est relativement forte. Mais évidemment, toute chose a un prix. Si on est trop près d'une interaction structurale, eh bien, d'une instabilité structurale, ben c'est cette instabilité qui peut gagner plutôt que la supraconductivité. Hein. Donc, il faut essayer de trouver des matériaux qui sont des matériaux de type onde de densité de charge, mais sans être du côté onde de densité de charge de l'instabilité. Alors, il y a des exemples nombreux de ce genre de choses. Les borocarbures sont un exemple relativement récent. Cette piste de recherche a été pas mal développée, en particulier en Union soviétique, avec des gens comme Ginzburg, qui avaient lancé en fait tout un programme d'études de la supraconductivité à haute température, dès les années 50-60. Et puis la troisième piste que vous voyez ici, c'est d'essayer d'augmenter la densité d'état, puisque si vous augmentez la densité d'état, eh bien vous augmentez ce facteur exponentiel, et donc des systèmes qui ont des matériaux qui ont une densité d'état élevée au niveau de Fermi, ça va être des matériaux qui contiennent des métaux de transition, puisque les métaux de transition donnent des bandes étroites, voir le cours de l'année dernière. Et donc, l'idée est d'incorporer les métaux de transition dans ces matériaux. Et effectivement, les composés A15, qui ont une structure A15, qui sont les matériaux, je dirais, ayant la plus haute TC, supérieure à 25A, découvert juste bien avant, mais ayant un intérêt pratique considérable encore aujourd'hui, bien avant les cuprates supraconducteurs, dans la foulée de la théorie des CS, sont des matériaux qui contiennent des métaux de transition, en particulier niobium-3 germanium. C'est d'ailleurs une des fameuses règles de Bernd Mathias, qui était un des grands pionniers de la recherche de matériaux supraconducteurs et qui en a découvert plusieurs, de dire que les éléments D sont bons pour la supraconductivité. Donc voilà un petit peu les trois pistes qui, je crois, ont guidé la recherche de nouveaux supraconducteurs jusqu'à la découverte de Bernhard Semmler. Donc ces éléments, je pense, vous font comprendre pourquoi la découverte de Bernhard Semmler est apparue comme si étonnante, si inattendue et si spectaculaire. C'est parce que finalement, il y a beaucoup de ces éléments qui ne sont pas réalisés dans ces matériaux-là. Et en plus, la température critique de cette famille de cuprates supraconducteurs, de ces cuprates supraconducteurs, est remarquablement élevée par rapport aux supraconducteurs connus à l'époque. Donc voilà l'évolution, c'est un graphe qu'on montre très très souvent, voilà l'évolution de la température de supraconductivité au cours des années. Vous voyez qu'il y a, dans la foulée, je dirais, de la théorie BCS, une famille de matériaux, qui sont en particulier les A15, qui sont encore des matériaux de très grand intérêt pratique aujourd'hui, avec des températures critiques de l'ordre de 22K. La grande révolution, eh bien, c'est novembre 1986, l'antenne barium-cuivre-oxygène, la découverte de Bernhard Semmler. Le titre de l'article de Bernhard Semmler est remarquablement modeste. Il dit « possible supraconductivité supérieure à 30 Kelvin dans ce système LABAQO ». Mais évidemment, ce qui est remarquable, c'est qu'en quelques semaines, la température critique de ces matériaux, à travers la découverte de nouveaux matériaux similaires mais différents, a grimpé très vite et, en particulier, dès février 87, a dépassé la température de l'azote liquide avec la découverte du fameux système IBAQO, yttrium, barium, cuivre, oxygène. Alors ça, c'est une barrière qui est non seulement une barrière symbolique, mais c'est également une barrière extrêmement pratique, puisque refroidir avec de l'azote ou refroidir avec de l'hélium, ce n'est pas tout à fait pareil du point de vue des technologies qu'il faut mettre en œuvre et bien sûr des coûts. Alors cette course aux hautes températures, elle a continué à grimper, mais malheureusement peut-être pas tout à fait aussi haut que ce qu'on aurait pu espérer. Le record est actuellement autour de un peu moins de 140 K et même un peu plus sous pression, avec des matériaux qui, comme vous allez le voir dans la suite, ont plusieurs plans cuivre-oxygène proches les uns des autres. Alors l'histoire de la supraconductivité avec des TC relativement hautes ne s'arrête pas avec la découverte de Bennard et Muller. Cette centaine de milliers d'articles dont je parlais tout à l'heure a quand même effectivement produit un intérêt plus global pour la supraconductivité. Et il y a un certain nombre de découvertes, dont certaines sont très récentes, qui valent le coup d'être mentionnées ici, même si elles ne font pas l'objet de développement dans ce cours. D'une part, MGB2, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est une sorte d'accident de l'histoire, parce que probablement il devrait être par ici, avant la découverte de Bennard et Muller, mais enfin dans un autre univers parallèle. Et d'autre part, en 2008, donc tout récemment, la découverte d'une nouvelle famille de supraconducteurs, dont on peut discuter si on doit les appeler à OTC ou pas à OTC. Ils n'ont pas encore atteint la température de l'azote liquide, ceux-là, mais ce sont ces fameux supraconducteurs à base de fer qui font l'objet de beaucoup d'études actuellement, qui ont été découverts au Japon, puis améliorés très rapidement en Chine. Donc voilà un petit peu le paysage, je dirais, de la recherche de nouveaux supraconducteurs avec des températures critiques qu'on peut espérer de plus en plus hautes. Un autre aspect qui rend la découverte de Bennard et Muller tout à fait spectaculaire, c'est que finalement, la supraconductivité de ces matériaux a été découverte dans une région de l'ensemble des éléments et des matériaux possibles où on ne s'y attendait pas du tout. D'abord, comme vous allez le voir, le composé non dopé, donc lanthane cuivre oxygène sans strontium, est un composé isolant et magnétique. Donc la supraconductivité, c'est quelque chose qu'on associe à l'instabilité d'un composé métallique. Hein. Donc partir d'un composé isolant, c'est assez remarquable. Et d'autre part, c'est un très bon antiferromagnétique en l'absence de dopage. Et on pense en général que le magnétisme et la supraconductivité sont des instabilités qui sont en compétition. Donc voilà quelque chose de tout à fait surprenant. D'autre part, ce sont des composés qui sont des oxydes qui, même lorsqu'on les dope légèrement, sont quand même d'assez mauvais métaux. La recherche de la supraconductivité dans les oxydes est quelque chose qui avait mauvaise réputation, en particulier selon les règles de Bernd-Mathias. Bennard et Muller, et Muller en particulier, étaient guidés par une idée qui vient de l'expérience qu'ils avaient dans l'étude des oxydes ferroélectriques, et on retrouve la question des instabilités structurales. Leur idée était que dans ces matériaux oxydes, il y avait la possibilité d'avoir de fortes distorsions structurales locales. Donc voir le cours de l'an dernier où j'ai expliqué un petit peu la structure électronique des oxydes et en particulier des élongations de l'octaèdre MO6 entourant le métal de transition et que ces distorsions de type Jahn-Teller allaient induire des phonons très puissants et capables de se coupler fortement aux électrons. Donc je crois qu'il est juste de dire que c'est ça le principe directeur qui avait orienté Alex Muller et Bednorz sur la piste de ces matériaux. Leur recherche sur ce sujet, c'est quelque chose qu'ils ont gardé tout à fait secret et confidentiel, non pas pour des raisons, je pense, de protection de leur découverte, mais plutôt pour des raisons de sérieux de ce type de recherche qui probablement n'aurait pas été pris au sérieux s'ils l'avaient rendu plus largement public. Alors, est-ce que ce mécanisme, est-ce que cette idée qui est derrière, cette recherche de Bednarz et Müller, c'est-à-dire ces distorsions Jan Teller fortes et ce couplage fort au phonon, est véritablement la raison pour laquelle ces matériaux sont supraconducteurs à OTC? Alors ça, je pense que c'est une question qui est encore controversée, qui ne fait probablement pas l'objet d'un consensus complet, mais enfin, il y a quand même, je pense, une assez large fraction de la communauté travaillant dans ce domaine qui pense, avec des bons arguments, que j'essaierai de vous détailler dans la suite de ce cours, que l'interaction électron-phonon n'est pas responsable de la supraconductivité de ces matériaux, et donc que finalement cette idée n'est pas, même si elle a permis la découverte, n'est pas en fait responsable de leur supraconductivité. Donc vous voyez comment on peut faire des grandes découvertes scientifiques avec des principes directeurs qui ne sont pas forcément les bons. Il y a de nombreux autres exemples dans la littérature scientifique. Bon, ça c'est le nombre de publications sur la supraconductivité en général, en fonction de l'année. Donc vous voyez l'impact de la découverte de Bednarz et Müller sur ce domaine de recherche, et ce diagramme s'arrête en 2005, mais il faudrait le continuer avec les matériaux à base de fer. Bon, donc voilà quelques éléments d'introduction très générale. Et maintenant, je voudrais vous présenter les personnages de cette pièce, à savoir les matériaux eux-mêmes. Donc, on va commencer avec le premier de la série, celui qui a été découvert historiquement, l'antenne cuivre-oxygène, et plus particulièrement l'antenne 2 cuivre-oxygène 4, LA2CuO4, qu'on appelle aussi 2-1-4 quelquefois dans notre jargon. Donc, LA2CuO4 est un isolant antiferromagnétique avec une température d'EDL assez élevée de l'ordre de la température ambiante. Si vous faites un comptage de type solide ionique, on va dire, vous voyez que le lanthane, je l'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, ayant une forte tendance à être 3+, et l'oxygène à attraper 2 électrons pour compléter sa couche P, eh bien, ça veut dire que le cuivre est dans l'état cuivre 2+, juste par neutralité électrique. Et comme le cuivre, c'est 3d10, 4s1, et que vous lui enlevez 2 électrons, vous aboutissez à une configuration 3d9, 4s0, c'est-à-dire que la couche 4s est vide et la couche 3d possède un trou, donc elle n'est pas tout à fait complète, il lui manque un électron pour être complète. Et c'est pour ça qu'on parle de système avec un trou dans la couche 3d. Alors, ce matériau est donc un isolant et donc pas du tout un supraconducteur. Pour le rendre supraconducteur, il faut introduire des porteurs de charge. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Dans le cas de LA2CuO4, ce qu'on peut faire, c'est doper ce matériau en trous, ce qui veut dire, de manière plus concrète, substituer une fraction des lanthanes 3+, par du strontium, qui est un ion 2+, ou du barium, c'est la découverte historique, 2+ également, ce qui conduit... Alors, vous pourriez être naïf et dire à introduire des trous dans la couche 3D, comme vous allez le voir dans quelques minutes. En réalité, les trous vont plutôt sur les oxygènes, je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais enfin, on introduit des porteurs de charge, et ça donne un supraconducteur avec une température critique maximale autour de 35 K pour une fraction de trous de l'ordre de 15%. Hein, donc voilà le principe général. Vous avez des matériaux qui sont des isolants antiferromagnétiques. Vous les dopez. On peut également doper en électrons certains matériaux, j'en parlerai tout à l'heure. Et vous obtenez un supra. Alors, quelques mots sur les aspects structuraux. Donc, dans le cours de l'année dernière, j'ai parlé des perovskites, et surtout des perovskites les plus simples, celles qui ont la formule ABO3 ou RMO3, où M est un métal de transition. Ces perovskites, je vous rappelle brièvement leur structure, donc la perovskite simple, hein, dont j'avais parlé l'année dernière. Il est important d'avoir cette structure en tête pour comprendre les structures plus complexes qui sont celles des cuprates. Donc la perovskite parfaite, elle est faite d'un arrangement en symétrie cubique. Ici, ce dessin-là a une symétrie cubique légèrement distordue, mais vous pouvez imaginer une parfaite symétrie cubique. Un arrangement d'octaèdre, dans lesquels on a au centre le métal de transition, 6 oxygènes qui forment les coins de l'octaèdre, et puis un réseau Q cubique d'autres ions, souvent une terre rare, c'est pour ça qu'ici elle s'appelle R, aux nœuds d'un réseau cubique entre lesquels les octaèdres se mettent. Voilà. Donc ça, ce sont les perovskites cubiques et les cuprates supraconducteurs, pour les plus simples d'entre eux, sont des déformations des descendants de ces perovskites cubiques, en particulier pour LA2C et UO4, font partie de cette série dite de Rootless Dunn-Popper, dont j'avais parlé un peu l'an dernier, et qui consiste à répéter ce motif structural qui est un octaèdre d'oxygène, mais en mettant entre ces octaèdres une couche d'un autre oxyde. Donc, en l'occurrence, ici, on aurait, vous voyez, une couche de type MO2. Hein, ça, ce sont donc une suite d'octaèdres qui se touchent par les coins. Et puis, entre cette couche et la suivante, une couche de monoxyde de, par exemple, lanthane. Hein. Donc, LA2CuO4 est à voir dans cette perspective comme CuO2, hein, qui décrit ce plan, plus LaO deux fois. Donc ça, c'est les composés 2,1,4. Alors, ce n'est pas du tout spécifique au cuprate. Hein, on sait faire toutes sortes de composés 2,1,4 d'autres oxydes de métaux de transition. Pour citer juste un exemple, il y a les rutanates, strontium ruthénium O3, qui est une perovskite qui n'est pas tout à fait cubique, mais enfin qui est distordue à partir de la structure cubique. Et puis, on peut construire également SR2RuO4, qui est donc le composé 2,1,4 correspondant. Et on peut même aller plus loin. On peut intercaler plus de couches, faire quelque chose comme ça, avec trois couches. Et ça, c'est le composé strontium-3-RuO7, par exemple, qui a été l'objet d'études assez intéressantes au cours de ces dernières années. Donc ça, c'est la série de Rootless Dunn-Popper. Dans le cadre de ce cours, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, ici, hein, donc lanthane 2, CuO4. Et vous voyez que l'élément essentiel de cette structure, enfin, vous ne voyez pas encore tout à fait qu'il est essentiel, mais ça va apparaître dans la suite, ce sont ces plans, ici, qui sont des plans CuO2, séparés les uns des autres par ces régions ici. Et ce sont ces plans CuO2 qui sont les éléments structuraux communs à tous les différents cuprates dont je vais parler maintenant. Alors, je vais rester un petit peu sur cette structure LA2CuO4. Vous allez probablement, au cours de cette séance, entendre un peu plus de chimie du solide que peut-être vous n'avez envie. LA2CuO4, c'est quelque chose qu'on peut voir de différentes manières. Alors, vous pouvez le voir de cette manière-là, dans cette représentation qui met en lumière les octaèdres d'oxygène. Donc, vous voyez ici les octaèdres d'oxygène. Ici, c'est plan LaO. Ici, les octaèdres d'oxygène suivants. Il faut répéter ce motif, mais qui sont décalés de manière que cette pointe pointe ici au milieu, etc. Donc, ça, c'est une représentation qui met en lumière les octaèdres d'oxygène. Les chimistes, souvent, dans la physique, dans la chimie des perovskites, ils aiment bien mettre en avant plutôt le réseau cubique des terres rares, le réseau cubique du lanthane en l'occurrence. Donc ça donne une représentation qui serait plutôt comme ça, vous voyez, où on met en évidence, on décale un peu la vue, et on met en évidence ce réseau cubique du lanthane. Alors si je regarde ce réseau cubique du lanthane, eh bien, vous voyez que chaque lanthane, eh bien, il est environné dans une structure perovskite idéale, dans la structure RMO3, il est entouré par 12 oxygènes. Donc ça forme ces sortes de cubes octaèdres, comme on dit ici, entre lesquels viennent se mettre les ions de métaux de transition. Donc ça, c'est une manière de voir la structure en se focalisant plutôt sur la terre rare que sur le métal de transition. Alors dans cette perspective-là, vous pouvez voir LA2CuO4 comme l'empilement de... l'élément n égale 2 de la série de Rootless Dunn-Popper, comme l'empilement d'éléments structuraux qui sont, pour les uns, ceux qui mettent en évidence le métal de transition au centre de son octaèdre et, alternativement, ceux qui mettent en évidence le cube octaèdre qui entoure la terre rare. Vous prenez cet élément A, cet élément B, vous les mettez ensemble, vous enlevez ces atomes pour que ça se colle, et vous trouvez la structure LA2CuO4 avec répétition du motif AB, AB, AB. Voilà. Donc c'est une manière de voir la construction de cette série de Rootless Dunn-Popper, qui vous conduit à ce que je montrais tout à l'heure. Un point très important, c'est que ces octaèdres d'oxygène dans cette série, dans LA2CIO4, sont fortement distordus. Et donc, on en vient à cette distorsion Jahn-Teller dont je parlais tout à l'heure. Si vous regardez la distance entre le cuivre central et l'oxygène dans le plan, eh bien, cette distance, elle est de l'ordre de 1,89 angström, hein, c'est la moitié de la maille A de la perovskite. Et donc, si vous regardez en revanche la distance entre ce cuivre et l'oxygène au-dessus du plan, qui va revenir à plusieurs reprises dans ces cours et qu'on appelle l'oxygène apical, au-dessus du plan, eh bien, cette distance est beaucoup plus grande. Elle est de l'ordre de 2,4 angström, donc c'est vraiment des octaèdres très allongés. Et cette élongation des octaèdres d'oxygène a une importance très grande, j'insiste sur ça, pour comprendre que ces matériaux ont en fait une seule orbitale active au niveau de Fermi, comme vous allez le voir tout à l'heure. Hein. La très forte distorsion Jahn-Teller de ces octaèdres a une conséquence tout à fait remarquable, qui est la formation d'une bande importante au niveau de Fermi, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un élément, à mon avis, essentiel de la physique des cuprates, et assez unique. Donc, pour résumer, pour ceux qui auraient envie d'adopter une vision, je dirais, un petit peu plus théoricienne de ces matériaux, vous pouvez penser aux cuprates comme des plans CuO2 séparés par des réservoirs de charge, alors ça, c'est quelque chose que les théoriciens aiment bien, parce que c'est simple, à travers lequel le dopage se fait. Voilà. Mais il faut quand même se souvenir que la réalité structurelle de ces matériaux est quand même un peu plus complexe, et vous allez le voir dans un instant, quand je vais parler des autres cuprates, il y a quand même une assez grande variété structurale, et il est assez clair que si on veut comprendre la dépendance de la température critique, par exemple, dans certaines propriétés structurales, qui est quand même quelque chose d'essentiel pour essayer de fabriquer des matériaux avec des températures critiques plus élevées, eh bien, on ne peut pas se contenter de cette vision-là. Il faut essayer de comprendre comment, au moins, des changements structuraux vont affecter la structure électronique de ces plans. Et ça, c'est quelque chose qu'on est loin de comprendre bien à l'heure actuelle. Alors, de nombreux autres cuprates qui font partie de cette grande famille sont obtenus, en fait, en gardant cette structure en plan CuO2, mais en modifiant toutes sortes de choses ailleurs dans la structure, et je vais vous donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, pour rester dans les composés de 1,4, c'est l'exemple des composés de type ND2CuO4, et ces composés sont des composés qu'on peut doper en électrons. Alors, j'ai mis côte à côte la structure de LA2CuO4, et la structure de ND2CuO4. Et vous voyez que ce qui distingue, donc ce sont des structures qui sont relativement similaires, à part que dans le cas de LA2CuO4, on a ici une structure de type celle de cuisine LAO, comme je l'expliquais tout à l'heure. En revanche, dans le cas de ND2CuO4, ce qui sépare les plans CuO2, c'est une structure un peu différente de type fluorite. Et alors ça a une conséquence qui est que si vous regardez les cuivres qui sont au centre de ces plans carrés là, vous voyez qu'il n'y a pas ici d'oxygène apical alors qu'ici il y a un oxygène apical. Hein. Alors ça offre une possibilité intéressante, c'est qu'on peut en fait doper ces éléments en électrons sur les sites de cuivre alors qu'en présence d'un oxygène apical, probablement pour des raisons de répulsion électrostatique, il est difficile d'introduire un électron supplémentaire sur le cuivre parce que l'oxygène qui est là n'aime pas ça. Donc c'est intéressant de voir que c'est un fait empirique, hein, je ne prétends pas démontrer quelque chose, mais c'est un fait empirique que les matériaux qui sont dopables en électrons n'ont pas d'oxygène apical. Je ne sais pas s'il y a des exceptions à cette règle, mais moi je n'en connais pas en tout cas. Donc voilà, ND2CuO4 est donc un matériau qui a été découverte un petit peu après et qu'on peut doper en électrons, donc la découverte date de 89 au Japon, on peut les doper en électrons par substitution sur le site du néodymium par du cérium qui a une valence différente, et vous voyez qu'on passe cette fois d'une configuration cuivre 2+ à une configuration cuivre plus, hein. Donc on met un électron qui cette fois va bien dans la couche D, On complète la couche D. Donc c'est du dopage en électrons, et dopage en trous et dopage en électrons dans ces matériaux ne conduisent pas, conduisent qualitativement à des effets physiques similaires, en ce sens qu'on a aussi une supraconductivité, mais si on regarde les choses plus en détail, le diagramme de phase sur lequel je reviendrai tout à l'heure a une très forte asymétrie entre dopage en électrons et dopage en trous, une asymétrie qui se voit tout de suite à deux choses. D'une part, l'antiferromagnétisme est beaucoup plus robuste dans les composés dopés en électrons. L'antiferromagnétisme subsiste jusqu'autour de 20%, alors qu'il est détruit à 2-3% dans les composés dopés en trous. Et d'autre part, les températures critiques des composés dopés en électrons sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 30-40. Bon, alors donc ça, c'est une variation sur ce même thème. Quand on change ce qui se passe dans le réservoir de charge, hein, la structure du réservoir de charge entre les plans. Alors, dans le cas de La2SuO4, l'entité de base, ce sont ces octaèdres CuO6, mais ce n'est pas le cas dans d'autres cuprates. Hein, même si ces plans CuO2 restent des entités de base, on peut changer la manière dont ces plans sont fabriqués en considérant des entités qui ne sont plus CuO6, des octaèdres CuO6, mais d'autres motifs, comme par exemple CuO5, c'est-à-dire un cuivre entouré de 4 oxygènes et d'un oxygène au-dessus, mais pas d'un oxygène en dessous. Hein. Donc une pyramide à base carrée, disons. Alors ça, c'est le cas de cette grande découverte de Paul Cho, qui est le composé IBAQO, hein, dont la structure est représentée ici. Et vous voyez qu'effectivement, ici, on a des pyramides. Ici, vous voyez, des pyramides avec mes 4 oxygènes, et puis ici, un oxygène en bas, mais pas d'oxygène en haut. Donc le motif élémentaire, c'est CuO5. J'en profite pour mentionner que ceux qui s'intéressent plutôt, disons, à la manière dont la science se fait, peuvent lire ce livre, qui a d'ailleurs été traduit en français en 89, La course supraconducteur, qui raconte l'élaboration par Paul Cho de ce matériau, dans un style, disons, grand public. C'est un livre qui est assez amusant à lire. Vous verrez en particulier l'histoire de la soumission fameuse de ce matériau, de la découverte de ce matériau à PRL, à Fitzrave Letters, dans lequel il avait substitué l'yttrium par l'ytterbium pour garder sa découverte confidentielle, bien qu'il n'ait jamais vraiment révélé les motifs de cette substitution. Il a évidemment changé dans la version publiée. Bon, vous pouvez lire ce livre, c'est assez amusant. Donc, je reviens sur IBAQO. Donc, sur IBAQO, vous voyez donc qu'on a ces deux plans cuivre-oxygène qui sont proches l'un des autres, séparés toujours par d'autres choses. Et un aspect tout à fait distinctif de cette structure IBAQO, c'est qu'en plus de ces plans cuivre-oxygène, on a ici les fameuses chaînes CuO qui sont ici et qui permettent de doper ce matériau en agissant sur la concentration en oxygène. Quand on fait du déficit d'oxygène dans IBAQO7, eh bien on enlève des oxygènes dans les chaînes et le matériau où il n'y a plus du tout d'oxygène dans les chaînes devient le matériau IBAQO6, qui est un isolant antiferromagnétique. Alors vous voyez qu'ici, en passant d'un plan cuivre-oxygène séparé par des réservoirs de charge à deux plans cuivre-oxygène séparés par des réservoirs de charge, même si cette structure est un peu particulière, eh bien, a conduit à une augmentation de la température critique considérable, depuis 35 K jusqu'à 90 K, qui est la température critique au dopage optimal pour ce matériau IBAQO. Et ça, c'est une chose qui est assez générale. Plus on augmente le nombre de plans proches les uns des autres séparés par ces réservoirs de charge, plus la température critique augmente. Donc N égale 1, des températures critiques plutôt de l'ordre de 40 K. N égale 2 va avoir des températures critiques plus élevées. Il y a des exceptions. Hein. Le mercure, c'est plus, mais bon, disons. La température critique augmente avec le nombre de plans. Et je ne pense pas qu'il y ait actuellement une explication consensuelle de ce phénomène. Alors, c'est très bien, vous pourriez dire, il suffit d'augmenter le nombre de plans et puis on va fabriquer un matériau supraconducteur à température ambiante. Malheureusement, ça ne marche pas vraiment. On n'arrive pas à faire beaucoup mieux au-delà de N égale 3. Bon, je vous passe un peu sur les détails de la structure du BACUO. J'en arrive à d'autres composés multiplans qui sont importants pour à la fois des raisons d'études expérimentales et aussi des raisons de haute température critique. Donc ça, c'est la célèbre structure bismuth de 212 et thallium de 212. Je ne vais pas me risquer à énoncer tous les éléments qui sont là, bismuth, strontium, etc. Vous voyez la maille élémentaire ici qui est absolument grande. Et vous voyez que ce matériau, bismuth de 212, est un matériau dans lequel il y a deux plans cuivre-oxygène, proches les uns des autres, séparés de nouveau par des réservoirs de charge qui sont des monoxydes, hein, comme dans le cas de Na2CuO4, à part qu'ici, c'est une alternance de plans bismuth-oxygène et strontium-oxygène. Hein. Donc, voilà, bismuth de 212 a une température critique maximale de l'ordre de 90 K, quelque chose comme ça. Et cette température critique augmente quand on augmente le nombre de plans. On peut considérer la structure bismuth 2201 dans laquelle il n'y a qu'un seul plan et la température critique de ce bismuth 2201 est beaucoup plus basse. Même exemple pour les composés au mercure. Alors ça, je les cite d'autant plus volontiers qu'on a en France une experte, les meilleures expertes mondiales de la synthèse de ces matériaux, Dorothée Colson. Vous voyez ici mercure 1201, donc plan unique, mais qui a une température critique de 95 K, hein, donc, bien différente de Na2CuO4, qui est aussi un plan unique, mais avec une température critique de 35 K. Mais néanmoins, la règle selon laquelle, quand on va vers plus de plans, la température critique augmente, s'applique aussi à ces composés du mercure. Ces composés du mercure détiennent d'ailleurs le record de température critique. Hein, sous pression, on arrive à l'ordre de 165 Kelvin. Et ils ont aussi un intérêt pour certains types d'études expérimentales, qui sont que les directions A et B des plans sont complètement équivalentes. Hein, ils ont une symétrie tétragonale. Et donc, ça permet de faire des études dépendant de la symétrie particulièrement propre, ces composés au mercure. Bien, alors je vois que l'heure tourne et que bien sûr j'étais beaucoup plus ambitieux dans la préparation de mes cours. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur les aspects matériaux. Je ne suis pas entré dans tous les détails de ces structures, mais j'ai essayé de vous donner les grands éléments. Hein, les grands éléments, c'est ces plans cuivre-oxygène séparés par des réservoirs de charge. C'est que cette image, disons, du théoricien des cuprates recouvre quand même des différences structurales importantes qu'il faut garder en tête, par exemple la présence ou l'absence de ces oxygènes apicaux et la distance de ces oxygènes apicaux par rapport au plan cuivre, sur lequel je vais revenir probablement dans le cours sur la supraconductivité, puisqu'elle semble jouer un rôle dans ce domaine. Le nombre de plans cuivre proches les uns des autres, séparés par ces réservoirs de charge, qui semble être un élément important pour déterminer la valeur de la température critique. D'une manière plus générale, on sent bien qu'il y a toute une ingénierie de ces matériaux qui devrait permettre de comprendre ce qu'il faut faire pour avoir des meilleurs supraconducteurs. Le problème, c'est que l'ingénierie de ces matériaux, elle est dans l'état actuel des choses très largement empirique, puisqu'il y a beaucoup des mécanismes de base qui ne sont pas compris. Et s'ils étaient compris, on peut espérer que, comme je l'ai montré tout à l'heure pour BCS, on aurait au moins des pistes pour savoir sur quoi agir pour augmenter TC. Donc, dans le cas de BCS, il y avait trois pistes qui ont toutes leur valeur, une certaine valeur de vérité. Dans le cas des cuprates, il y a des faits empiriques, hein, comme l'augmentation de TC avec le nombre de couches, comme vous allez le voir plus tard, la dépendance de TC dans la proximité de l'oxygène apical, mais des véritables explications microscopiques de ces phénomènes observés, la plupart sont quand même manquantes. Bon, alors, je vais quand même aborder les bases de la structure électronique de ces matériaux, et puis ensuite on fera un petit break. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une image purement ionique de ces systèmes conduit à la conclusion que dans le composé isolant Na2CuO4, le cuivre est dans l'état de plus, c'est-à-dire un trou dans la couche D et la couche 4S vide. Alors ça vient du fait que si vous regardez la structure électronique d'un atome de lanthane isolé, c'est la structure du xénon 6S25D1, donc vous voyez que ces électrons, qui sont quand même des électrons de valence très délocalisés, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de partir et de faire un ion lanthane 3+, pour l'oxygène, c'est également bien connu. Donc là, l'électroneutralité du système conduit à la conclusion qu'on a un ion cuivre de plus. De même, vous pouvez faire le même comptage pour yttrium, barium de cuivre 3 ou 6, hein, qui est le composé parent sans oxygène dans les chaînes, et vous concluez également à cuivre de plus. Alors ça, c'est déjà une constatation relativement curieuse, puisque ça veut dire que la couche 3D du cuivre est incomplète, et donc on pourrait fort bien s'attendre à avoir un métal. Or, on n'a pas du tout un métal, on a un isolant avec un gap relativement grand, entre 1 et 2 EV, hein, selon le matériau, et qui plus est, un isolant qui devient antiferromagnétique à une température critique très élevée, de l'ordre de 300 K pour Na2SiO4, presque 500 pour IBAQ6, et donc ça signale quand même un magnétisme localisé, donc la formation de moments locaux, donc on a des bons isolants, en fait parmi les meilleurs antiferromagnétiques qu'on connaisse. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est évidemment un effet des corrélations électroniques, mais avant que je vous parle de corrélations électroniques, il faut que je vous décrive un petit peu la structure locale de ces systèmes, au-delà de l'image ionique dont je venais de vous parler. Alors, ces ions ne sont pas isolés, ils sont en contact les uns avec les autres, et autant j'avais pris une image ionique pour décrire, en gros, la valence nominale de ces ions, autant si je regarde ces plans CuO2, il y a une forte covalence entre les orbitales de cuivre et les orbitales d'oxygène. Alors, les choses se passent en gros comme ça. On a cette couche 3D dans laquelle on a donc 9 électrons, Cu de plus, et puis on a cette couche 2P des oxygènes, hein, qui est donc complète puisqu'elle a absorbé 2 électrons, 2P6, et ces orbitales se recouvrent les unes les autres, mais ces orbitales 3D, je vous renvoie au cours de l'an dernier, on a donc 5 orbitales 3D, hein, ces orbitales 3D sont évidemment, leur dégénérescence est levée par le champ cristallin. Alors, si j'avais juste une structure cubique, eh bien, j'aurais une levée de dégénérescence que j'ai décrite en détail l'an dernier entre un triplet T2G, hein, qui est de plus basse énergie dans un environnement octaédrique, et un doublet EG, qui est de plus haute énergie, et cette séparation est assez grande, plusieurs électronvolts. Et donc, j'aurais 6 électrons dans mon multiplet T2G et 3 seulement dans la couche EG, donc avec ce trou. En réalité, ce n'est pas la seule levée de dégénérescence, cette levée de dégénérescence continue, et elle continue en particulier parce qu'on a une forte élongation de ces octaèdres cuivre-oxygène qui lève la dégénérescence du doublet EG. Hein. Ce doublet EG ne reste pas dégénéré, il est levé à cause du fait que la distance cuivre-oxygène dans les plans et la distance cuivre-oxygène apicale sont bien différentes. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, qui est que finalement, on se retrouve dans une configuration où le T2G est plein, avec 6 électrons, l'orbitale 3Z2-R2, c'est-à-dire celle qui pointe perpendiculairement au plan, est également pleine avec 2 électrons, et on se retrouve avec une orbitale X2-Y2 qui contient un électron et un trou. Et comme vous allez le voir, c'est cette orbitale X2-Y2 qui est active au niveau de Fermi et qui se lie très bien par liaison covalente avec les oxygènes voisins dans le plan. Hein, donc là, le dessin est ici. Vous avez ces orbitales X2-Y2 des cuivres, les orbitales PY et PX des oxygènes, et vous voyez que ces gens sont faits pour s'entendre, ils forment de très bonnes liaisons covalentes dans les plans. Et selon les principes de base de la chimie quantique, vous pouvez vous attendre à la formation d'un état liant, hein, quand les signes des orbitales sont comme ça, d'un état anti-liant quand les signes des orbitales s'opposent partout pour fabriquer des nœuds dans la fonction d'onde, et puis d'un état non-liant quand on a une structure, un appariement des signes intermédiaires. Hein. Et donc, l'état liant est stabilisé. L'état anti-liant est déstabilisé, Donc vous voyez qu'on peut s'attendre à ce que l'état liant soit relativement profond en énergie et complètement occupé, et l'état anti-liant soit celui qui est partiellement occupé par un électron. Donc voilà la description de la structure électronique avec les mains, disons, en regardant un petit peu l'environnement local du cuivre dans ces plans CUOD. Alors, on peut faire les choses moins avec les mains et faire un véritable calcul de structure électronique par les méthodes, disons, de l'état de l'art pour ce système. Et, croyez-le ou non, mais je vais essayer de vous en convaincre, le diagramme qui est ici n'est autre que ne justifie complètement, du point de vue qualitatif, celui qui est là. Donc, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Vous avez ici, dans une fenêtre qui est en gros de moins 6 électronvolts à plus 2 électronvolts, vous avez ici les bandes d'énergie de La2CiO4 quand on se promène dans la zone de Brillouin, qui est une zone de Brillouin relativement compliquée, qui est décrite ici avec gamma, le point central, qui est là. Et donc, ce que vous voyez tout de suite, c'est que, d'une part, vous pouvez vous amuser à compter les bandes que vous avez là. Évidemment, il ne faut pas faire ça au point de haute symétrie parce qu'il y a des dégénérescences supplémentaires. Il faut essayer de les compter comme ça. Et vous vous apercevrez qu'il y a ici 17 bandes. Alors ça, c'est normal qu'il y ait 17 bandes puisque vous avez 4 oxygènes qui entourent le cuivre. Et donc, c'est 4 fois 3 orbitales d'oxygène plus 5 orbitales de cuivre. Donc ça, ça fait 17 bandes. Et vous voyez que ces bandes, il y a ici tout un paquet de bandes qui sont relativement étroites. En particulier, vous devez vous attendre à trouver ici la fameuse bande non liante entre le cuivre, l'orbital X2-Y2 et les orbitales PX et PY du cuivre. Par ailleurs, vous avez ici une bande très dispersive, mais très pleine et loin du niveau de Fermi, ici à peu près 5-6 eV, qui est, selon toute vraisemblance, la bande liante dont je parlais tout à l'heure, qui est complètement occupée. Vous voyez qu'elle est très loin du niveau de Fermi qui est là. Et puis vous avez ici une bande très dispersive, comme ça, qui est donc la bande antiliante, formée entre l'orbital X2-Y2 du cuivre et les orbitales PX et PY de l'oxygène. Et vous voyez que dans ce calcul de structure de bande, le fait remarquable, c'est qu'il y a une seule bande ici qui est active au niveau de Fermi. Et ça, c'est un fait qui est tout à fait exceptionnel dans le monde des oxydes de métaux de transition. En fait, c'est même le seul cas que je connaisse. Et j'ai demandé à mes amis chimistes qui me disent qu'ils n'en connaissent pas d'autres. Une bande unique non dégénérée, avec de fortes interactions électroniques, c'est une situation dans laquelle les effets quantiques et les effets de fortes interactions sont maximisés. Et c'est très probablement une des raisons importantes du caractère unique des cuprates. C'est quand même tentant de relier ce fait que ce soit le seul oxyde qu'on connaisse qui fasse ça aux propriétés remarquables de ces systèmes. Alors j'en profite pour mentionner une autre chose qui est que, alors je vais essayer de vous montrer quelque chose pour finir le cours que je voulais montrer plus tard, mais finalement, ça vient assez bien ici. Voilà, donc c'est ce point que je viens de faire, qui est qu'il y a une bande unique qui coupe le niveau de Fermi. J'en profite pour vous signaler que c'est le seul oxyde que je connaisse qui fasse ça, mais il y a d'autres matériaux qui font ça, qui sont relativement rares, mais qui existent, en particulier les organiques bidimensionnels. Les organiques bidimensionnels sont aussi des systèmes à une bande, c'est-à-dire où il y a une orbitale moléculaire active au niveau de Fermi. Et d'une manière tout à fait intéressante, ce sont des supraconducteurs à OTC. Alors le mot OTC ici est à prendre non pas en valeur absolue, bien que leur température critique soit quand même supérieure à 10K, nettement. Donc c'est quand même des TC relativement élevés, mais c'est surtout des TC élevés si on les compare à l'énergie de Fermi, à la largeur de bande de ces systèmes. Dans les cuprates, la largeur de bande est plusieurs EV, 2-3 EV, dans les organiques. C'est plutôt 1,5 électronvolt. Et le rapport TC sur EF n'a rien à envier dans les organiques 2D, en particulier ceux de la famille Kappa BEDT, à ceux des cuprates. Donc, à l'aune de cette mesure, KTC sur EF, ce sont aussi des supra-OTC, et il est assez remarquable de constater que que c'est le seul autre système connu de moi avec de fortes corrélations électroniques qui ait une seule bande active au niveau de Fermi. Alors, cette constatation a évidemment été faite plusieurs fois et les gens ont essayé de se dire on pourrait peut-être agir sur d'autres oxydes pour lever la dégénérescence au niveau de Fermi. Il est de bon ton de partir de systèmes qui soient des systèmes EG, puisqu'on n'a que deux bandes. Si on parle d'un système T2G, on en a trois. Et qui plus est, les EG, les orbitales EG pointant vers les oxygènes, ils sont très sensibles aux effets de champ cristallin, donc ça va être plus facile d'agir sur la levée de dégénérescence. Et donc ça, c'est l'objet d'un article, de deux articles même, dont Genia Kaluulin est en partie à l'origine, qui a proposé que dans des systèmes de type oxyde de nickel, on puisse, en agissant sur le champ cristallin, par exemple en construisant des multicouches LaNiO3, LaAlO3, des techniques qu'on sait maintenant bien maîtrisées par épitaxie par jet moléculaire, on puisse lever la dégénérescence des deux orbitales G qui sont dans ces matériaux actifs au niveau de Fermi. À ma connaissance, la réalisation de ce type de choses a débouché sur un composé du nickel qui est plus complexe que celui-là, qui a été synthétisé par Martha Greenblatt à Rutgers, mais pas de supra pour l'instant, mais c'est une piste tout à fait intéressante d'essayer de nanostructurer ou de faire des hétérostructures d'oxyde qui puissent reproduire ces systèmes à une borne non dégénérée au niveau de Fermi, comme la structure électronique des cuprates. Bon, mais je vais m'arrêter là pour faire une petite pause d'environ une bonne dizaine de minutes, on va dire, et reprendre avec la deuxième heure de ce cours, sachant que je suis très en retard, bien sûr.